Bonsoir. Situation sécuritaire au Nord Kivu. Dans une conférence de presse tenue samedi dernier à Goma, le gouvernement de la RDC dénonce la passivité du Rwanda dans l'insécurité causée par les affrontements entre les FARDC et les mutins du M23 dans le Rutshuru. Selon le gouvernement, des hommes ont été recrutés, formés puis déployés du Rwanda vers Runyoni en territoire congolais pour combattre dans les rangs des mutins. Comment analyser cette déclaration du gouvernement ? Pour en parler, nous recevons Raphaël Loulou, conseiller principal du chef de l'État chargé des questions parlementaires et des institutions d'appui à la démocratie. Monsieur le conseiller Loulou, bonsoir. Bonne année, Jérôme Lusenge, député national de l'opposition et cadre du parti politique Union des démocrates chrétiens fédéralistes, UDCF. Honorable, bonne année, Lusenge, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale, il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Merci pour vos réactions, chers auditeurs et internautes. Yves Loubouli de Lubumbashi au Katanga. Cette déclaration dénonce de la détermination du gouvernement sous la houlette du président de la République de résoudre définitivement cette question de l'insécurité dans l'est du pays. La résolution de cette énième guerre demande l'intervention de la communauté internationale qui, après avoir appuyé la RDC dans l'organisation des élections, ainsi qu'à travers diverses autres interventions, a le devoir d'assurer un bon climat d'épanouissement dans ce pays. Arnold Ombeni Mongo de Bukavu, Sud Kivu. Depuis longtemps, notre gouvernement savait que toute l'insécurité à l'Est connaissait la participation du Rwanda. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'il prend position seulement après que les autres institutions internationales aient dénoncé cette implication? Merci de votre fidélité et bonne émission à tous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le gouvernement de la RDC dénonce la passivité du Rwanda dans l'insécurité causée par les affrontements entre les FARDC et les mutins du M23 dans le Rutshuru. Des hommes ont été recrutés, formés puis déployés du Rwanda vers Runyoni en territoire congolais pour combattre dans les rangs des mutins. C'est ce qui ressort de la communication du gouvernement faite par le ministre de la Communication devant la presse samedi à Goma. Communication faite à l'issue d'une mission de travail du premier ministre Matata Ponyo, accompagné de 11 ministres de son gouvernement. On écoute le ministre Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, au micro de Sylvestre Kilolo.
Aujourd'hui, sur base des conclusions des enquêtes de nos services, nous sommes en mesure d'affirmer ce qui suit. 1. Parmi les miliciens de la bande Antaganda et Makenga, se sont trouvés quelque 200 à 300 éléments recrutés sur le territoire du Rwanda par un réseau actif dans ce pays voisin. 2. Plusieurs combattants ainsi recrutés sont des ressortissants rwandais. Infiltrés en République démocratique du Congo, ils ont subi un entraînement sommaire avant d'être déployés au front contre les forces armées de la République démocratique du Congo. 3. Il y a des mineurs d'âge et de très jeunes gens parmi ces combattants, dont le Premier ministre et sa délégation ont pu voir un échantillon à Goma. 4. Alors que dans leur fuite, les mutins avaient abandonné tout leur armement, soit 38 tonnes récupérées par les FARDC, il a été noté un décuplement de la puissance de feu de la bande Antaganda et Makenga dès son arrivée dans le triangle Runyoni-Tianzu-Mbuzi, à côté à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, alors que les mutins avaient abandonné toutes leurs armes dans leur fuite.
Raphaël Loulou, je rappelle que vous êtes conseiller principal du chef de l'État chargé des questions parlementaires et des institutions d'appui à la démocratie. Je commence par vous avec cette réaction qui nous vient de Sozère Kalingaï qui dit « Pourquoi le gouvernement accuse simplement le Rwanda de passivité au lieu de parler par exemple de double jeu, complicité, agression ? Pourquoi le gouvernement semble être doux en parole et en action, même si on doit considérer le cas où la passivité signifie un différent tolérance et attitude qui consiste à laisser que les autres fassent ce qui nous revient à nous de faire, pourquoi le gouvernement doit attendre que le Rwanda agisse? Raphaël Loulou, on a l'impression, comme dit cet auditeur, que le gouvernement fait cette accusation un peu entre les dents.
Non, nous ne pensons pas que le gouvernement congolais n'a pas mieux dit. Mais au moins, ce qui est sûr est que le gouvernement congolais l'a dénoncé par, vous avez suivi, la bouche de porte-parole du gouvernement. Ça veut dire que pour la RDC, il n'est pas seulement question de dénoncer, de condamner, mais la passivité, c'est parce que la RDC voudrait voir le Rwanda en tant qu'État voisin agir dans le sens de l'instauration de la paix dans la région des Grands Lacs. Vous comprenez, si nous dénonçons seulement sans demander qu'il y ait un mouvement, une action à faire, nous osons croire que cela ne sera pas mieux dit. Mais au moins, nous voudrions dire que la RDC n'est pas le seul à pouvoir dénoncer cela, ou le dire, ou demander que le Rwanda fasse quelque chose pour l'instauration de la paix, parce que vous savez, en tant qu'État voisin de la RDC dans la région de Grand Lac, le Rwanda est aussi appelé à agir dans le sens de faire que la paix règne dans la région de Grand Lac en général. Et vous l'avez suivi, il n'y a pas que le gouvernement congolais pour dire cela. Washington l'a dit par un communiqué d'État publié le 7 juin que c'est la responsabilité du Rwanda et a demandé à ce que le Rwanda, la RDC, puisse agir dans le sens de retrouver la paix ou d'instaurer la paix dans cette région de Grand Lac. Il n'y a pas que Washington, il y a Human Rights Watch qui a dit la même chose, qui a dénoncé. Donc, on ne peut, au lieu de critiquer la position prise par le gouvernement congolais, je pense qu'on aurait encouragé, dans la mesure où nous avons des acteurs internationaux tels que les États-Unis, qui pour la première fois condamnent visiblement le Rwanda pour les actes d'insécurité causés dans notre pays.
Prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
C'est le député Henri Thomas Lokondo. Je constate seulement que le gouvernement vient de découvrir un secret policiel que toute l'opinion nationale et internationale connaissait déjà. Mais il faut reconnaître que le compte-rendu du gouvernement a été courageux. Mais il aurait été complet si le gouvernement avait tiré toutes les conséquences de ce constat d'une agression qui ne dit pas son nom que lui-même vient de faire maintenant. Une autre chose très importante, c'est que le gouvernement doit maintenant par une note élever formellement une protestation à l'intention du gouvernement rwandais. Ensuite, je pense également qu'il est impérieux que notre gouvernement saisisse aussi officiellement le Conseil de sécurité, qui a toujours considéré que dans plusieurs de ses résolutions que la situation de notre pays est une menace pour la paix et la sécurité internationale de la région. Et pour qu'éventuellement le Conseil de sécurité puisse condamner cette duplicité du Rwanda, c'est important dans le jeu diplomatique.
Réaction de M. le conseiller Raphaël Loulou.
Nous devons croire que la République démocratique du Congo, pour autant qu'elle n'est pas un État belliciste, la position prise par le gouvernement de pouvoir dénoncer cela, de condamner cette implication du Rwanda dans l'insécurité à l'est de notre pays est à féliciter. À féliciter parce que par cette déclaration lue par le ministre Lambert Mende, le gouvernement congolais vient de prouver à la face du monde que il pointe son doigt accusateur vers le Rwanda et en tant qu'État, nous devons aussi veiller à ce qu'il y ait le respect de certaines clauses internationales dans le cas de résolution de paix et il n'est pas demandé au gouvernement congolais de pouvoir déclarer soit la guerre, soit le faire de force. Mais nous osons croire qu'avec le temps à venir, le gouvernement congolais tirera toutes les conséquences de la situation parce que c'en est trop, on ne peut pas accepter que les Congolais perdent de vie chaque fois et qu'il y ait des milliers de déplacés. Déjà, on parle de 13 000 déplacés entre la frontière de la RDC de l'Ouganda. Donc, nous ne pouvons pas dire que ce que le gouvernement congolais a fait est moins, nous le félicitons, mais nous demandons au gouvernement congolais d'user de toutes ses prérogatives pour que la situation se rétablisse en respectant bien entendu les clauses internationales en matière de coopération, de collaboration entre États.
Mais Monsieur le conseiller Raphaël Loulou, vous l'avez vous-même dit, le gouvernement américain a pointé déjà du doigt le Rwanda, Human Rights Watch, le député Henri Thomas Lokondo a également dit que c'était un secret de polichinelle, c'était du déjà connu, mais le gouvernement vient intervenir en dernier ressort, on a l'impression qu'il a cédé à une certaine pression.
Non, écoutez, un gouvernement responsable ne peut qu'intervenir en dernier lieu, parce que vous ne pouvez pas demander au gouvernement d'avoir une réaction épidermique. Sitôt que la rue est en train d'en parler, les gens sont en train d'en parler, il faudrait que le gouvernement réunisse de preuves pour le dire. Et lorsqu'il y a une telle déclaration, il faut savoir que c'est une déclaration lourde de conséquences, parce que c'est toute la responsabilité d'État qui est prise. Lorsque le ministre Lambert Mende, au nom du gouvernement congolais, se permet de dire cela, ça veut dire que le gouvernement a déjà vérifié, d'ailleurs il l'a dit, après avoir vérifié, après avoir été renseigné, après avoir réuni toutes les preuves par nos services, le gouvernement congolais déclare. Ça veut dire que le gouvernement congolais ne pouvait pas se mettre à décider ou à dire, à dénoncer, à réagir, lorsqu'il n'a pas encore réuni les preuves. Nous avons un gouvernement responsable, nous avons des hommes d'État réfléchis qui, avant de décider, avant de déclarer, prennent la mesure de la chose et doivent réunir les éléments pour que le lendemain, l'on vienne pas leur opposer autre chose à leur déclaration. Merci. Je pense que ce n'est pas en retard, c'est tombé à point nommé après avoir réuni tous les éléments et toutes les preuves.
Merci, Monsieur le conseiller Raphaël Loulou. Honorable bonne année, Jérôme Lusenge. Comment vous avez analysé cette déclaration du gouvernement?
Dire que j'ai analysé, c'est trop dire. J'ai suivi et je crois que c'est un élément, on peut dire que c'est déjà été dit. On est étonné de voir que c'est maintenant que le gouvernement voit. C'est vraiment du rigolo. Dirais même ridicule. Je sais que en 2006, quand nous avons élu le président Kabila très massivement à l'est du pays, nous savions, nous, à ce moment-là, que le Rwanda nous malmène. Et nous voulions un président courageux qui devrait nous sortir de ce marasme. Et nous sommes rendus compte que pendant 5 ans de mandat, justement, ceux qui sont tout autour du président de la République essaye de minimiser. Je me demande combien de morts ils ont voulu compter au Congo et à l'est du Congo, surtout à l'est du Congo, pour qu'ils reconnaissent que la situation est grave et qu'ils doivent pas étonner et taper sur la table. Cette déclaration plus ou moins tardive et qui semble soutenir doucement, on dirait on veut cajoler le président rwandais. Je viens d'entendre dire que il faut que le Rwanda fasse quelque chose. Un ennemi, on attend qu'il fasse pour vous quelque chose. C'est vraiment très regrettable de constater que l'entourage du chef de l'État continue à présenter cette situation comme si elle était légère, comme si c'est le gouvernement américain qui doit parler pour nous. Chez nous, il y a une expression, on dit, si il y a un deuil chez vous, vous-même, vous ne pleurez pas. Comment voulez-vous que les autres s'inquiètent à outre mesure de votre problème? Donc, il y a une négligence du côté congolais. Et je voudrais dire à l'entourage du chef de l'État et du gouvernement, d'ailleurs j'ai dit au Premier ministre, que si cette fois-ci, il ne prend pas la chose au très grand sérieux, eh bien nous ne lui pardonnerons pas, surtout pas nous les gens de l'Est. Nous ne pardonnerons pas cette situation.
Mais vous avez suivi le ministre Lambert Mende, le conseiller Raphaël Loulou l'a également dit, le gouvernement voulait s'assurer qu'il disposait de ses propres arguments avant de dire quoi que ce soit. N'est-il pas aussi responsable devant une pareille situation, honorable Lusenge, bonne année?
C'est regrettable qu'on cherche les arguments. Mzee Laurent Kabila avait déjà parlé d'agression. Et aujourd'hui, on continue encore à chercher les éléments Donc ça signifie que notre dossier est vide. On a tout jeté lorsque M. Clora Kabila qui est mort. On a jeté tout ce qu'il y avait comme élément. Nous savons que le RCD Goma n'est qu'une prolongement, n'est qu'un prolongement de la mer rwandaise. Nous savons, je vais vous donner un exemple. Le gouverneur du Nord Kivu, sous le mandat qu'on vient de terminer, indique clairement que le gouverneur du Nord Kivu nous indique qu'il a vu des gens venus du Rwanda qui traversent la frontière pour essayer de déstabiliser le Congo. Mais aussitôt on a parlé avec lui, le lendemain, il dément à la radio, à cette radio ici. C'est ça, nous disons, les autorités congolaises semblent ne pas avoir la responsabilité de leurs propres citoyens. On dirait qu'ils attendent que les Rwandais aient pitié de nous pour nous aider. Et ce que nous apprenons, c'est là, nous sommes déçus. Ça, ce n'est pas sérieux. Il faut que le gouvernement puisse s'étonner sérieusement. Et puis, d'abord, ce gouvernement, il a l'appui. Je peux vous dire comment on a élu le président Joseph Kabila à l'Est. L'appui de la population de l'Est est total. Mais c'est le gouvernement qui tergiverse, ne veut pas. Et c'est ça la déception.
Alors, il y a cette réaction qui nous vient de Bounia pour vous, honorable Lusenge Bonani.
Maître Awaz Bin Chabani de Bounia en province orientale, je me pose la question de savoir est-il nécessaire aujourd'hui de s'attaquer aux origines de ces groupes armés que de chercher à les démanteler tout simplement car la population en passe déjà. Nos frontières sont poreuses, raison pour laquelle nous demeurons exposés aux attaques des morts. Il faut se payer simplement.
Je reprends une partie de sa réaction. Il dit, est-il nécessaire aujourd'hui de s'attaquer aux origines de ces groupes armés ou que de chercher à les démanteler tout simplement?
Nous avons toujours dit que nous voulons à l'Est de la République une armée nationale. Nous ne voulons pas de swahilifone. Nous ne voulons pas parce que quand on parle de swahilifone, on est globalisant. Voyez par exemple les rwandophones qui peuvent représenter plus de 70% de l'armée dans cette zone-là. Ce sont ces rwandophones qui permettent que les Rwandais entrent et on ne sait plus faire le distinguo. C'est une fois cette armée, ces militaires qui parlent Kinyarwanda. Comment vont-ils, il y a une confusion avec les FDLR, comment vont-ils se chasser entre eux? Ils sont tous d'une même ethnie. Voilà la situation quand nous parlons des origines. Ce n'est pas de mauvaise foi. C'est pour qu'on puisse avoir une armée capable d'affronter l'adversaire d'une manière clairement nette. On peut se distinguer l'une ou l'autre partie. Mais s'il y a confusion, et si, surtout si politiquement ceux qui parlent les locuteurs de la langue se disent bon, aussi longtemps que beaucoup d'autres Rwandais arrivent, c'est que nous avons une certaine suppression numérique possible dans cet espace pour gérer et annexer doucement, à d'autres termes, annexer ça les dire, nous voulons que tout ceci soit mis de côté et qu'on puisse laisser une armée. Là, quand on veut faire l'armée, on ne veut pas agir sur son propre terrain. Une armée ethnique, ça nous ne voulons pas. C'est pourquoi nous voulons que les gens, par exemple, les gens qui limitent l'origine de Bandundu, de l'Équateur, du Bas-Congo, pourquoi pas du Kasaï, viennent nous aider à l'Est. Nous croyons qu'avec ça, on pourra terminer les problèmes.
Voilà. Professeur Bob Kabamba, bonsoir, vous êtes en ligne.
Bonsoir.
Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Professeur, comment également vous avez reçu cette déclaration du gouvernement?
Merci pour la question, monsieur Rousseau. Normalement, lorsqu'on regarde l'historique des relations entre le Congo et le Rwanda, il faut remonter quand même dans les années 60 pour bien comprendre que dans cette région, il y a toujours eu des mouvements de population avec des mouvements rebelles dans un sens ou dans un autre qui ont été appuyés par l'un par l'autre pour embêter les uns les autres. C'est dans ce cadre-là qu'il y a eu déjà depuis les années 60 toute une série de traités qui avaient été signés entre le Rwanda, le Congo et le Burundi pour justement éviter qu'il puisse y avoir des groupes rebelles qui soient armés et soutenus les uns et les autres contre le régime des pays voisins. Mais tous ces traités, malheureusement, ont été n'ont pas été respectés à partir des années 90, vous vous souvenez, avec l'attaque du FPR, et ensuite, bien sûr, avec aussi toute la question liée aux FDLR dans le sens. Et donc, ainsi, donc, dans toute la région, chaque pays essaye de garder une espèce de mainmise sur l'évolution politique du pays voisin. Le Rwanda continue toujours à utiliser le prétexte sécuritaire pour garder un œil sur ses relations avec le Congo. Le Congo aussi, de son côté, avec la question des FDLR, continue toujours à avoir le gouvernement rwandais en méfiance, ainsi de suite aussi par rapport au Burundi. Et donc, lorsqu'on regarde aussi de manière concrète par rapport aux relations entre les deux pays, il est en fait certain que dans cette région, il est pratiquement difficile qu'il puisse y avoir un mouvement armé qui naît dans cette région sans que d'une manière directe ou indirecte que l'un des trois pays ne soit impliqué. C'est-à-dire que l'appareil sécuritaire au Rwanda est tel qu'il est impossible, par exemple, de pouvoir avoir des mouvements de troupes sans que le gouvernement rwandais ne soit saisi ou les militaires rwandais ne soient saisis. Il est impossible quand même d'avoir un acheminement important d'armes et de munitions du Rwanda vers le Congo sans que le gouvernement rwandais ne soit directement, soit indirectement impliqué. De ce fait, de manière très claire, en fait, c'est un secret de polichinelle par rapport à l'annonce du gouvernement congolais. D'autre part, il faut quand même bien se rendre compte que lorsque le Congo confirme, enfin, ce que tout le monde savait, c'est aussi une certaine façon de pouvoir mettre la pression sur le Rwanda pour que le Rwanda soit obligé de pouvoir réagir par rapport à ça. Est-ce que le Congo a les moyens de pouvoir contraindre le Rwanda à réagir dans un sens ou dans un autre? Moi, je vous répondrai que non. Et cette annonce aussi veut, d'une certaine façon, aider le gouvernement congolais à ce que la communauté internationale prenne position en faveur du Congo contre le Rwanda dans ce dossier. Et je pense que c'est beaucoup plus dans ce sens-là qu'il faut chercher la communication du ministre Mende et du gouvernement congolais de manière générale.
Alors donc, professeur, vous dites que la RDC n'a pas les moyens de faire pression sur le Rwanda. Le député Henri Thomas Lokondo, dont on a entendu la réaction dans cette émission, disait que cette réaction était incomplète. Cela justifie-t-il ce fait-là?
Il y a déjà plusieurs choses. Déjà, je pense que le gouvernement congolais devait déjà dire que le Rwanda a violé quand même les traités qu'il a signés entre les deux pays. Je peux vous citer la liste des traités. Il y a la liste d'abord, un premier traité qui avait été signé en 1966, en 74, en 75, en 85 et même dans les années 2000. Et donc, clairement, le gouvernement congolais pouvait déjà quand même stigmatiser cet aspect des choses, que le Rwanda n'a pas respecté les conventions qu'ils avaient signées. D'autre part aussi, le Rwanda a violé aussi toute une série de conventions liées à la Charte des Nations Unies qui garantit l'intégrité territoriale et qui empêche les pays de pouvoir s'immiscer dans les affaires intérieures des autres. Et donc, il y a déjà cet aspect de choses-là sur lesquelles je pense que le gouvernement congolais devrait quand même dénoncer et mettre, permettez-moi l'expression, mettre le Rwanda devant ses responsabilités dans ce dossier avec le mouvement 23. Et donc, le Congo doit effectivement aller plus loin et il y a plusieurs instances au niveau international qui peuvent aider donc le Congo dans ce sens-là. Il y a bien sûr toutes les questions liées à l'Union africaine avec la commission de sécurité, donc la commission africaine qui peut intervenir. Il y a effectivement toutes les conventions de l'Union africaine et pourquoi pas aller au-delà et jusqu'au niveau du concept de sécurité, c'est-à-dire le concept de sécurité pour violation de territoire et pour soutien à un mouvement rebelle dans un pays voisin.
Professeur, il y a Franklin Matumaini de Bukavu qui dit « La seule dénonciation de l'implication du Rwanda par Kinshasa ne suffit pas pour résoudre la question de l'Est si la RDC ne revoit pas sa politique interne sécuritaire régionale et internationale qui demeure trop dépendante et ne respecte pas les accords conclus avec l'extérieur. En plus, étant donné que cette énième responsabilité démontrée du Rwanda et comme la communauté internationale et la RDC sont d'accord que l'Est est encore agressée par le Rwanda, la RDC n'est-elle pas en droit de demander une sanction contre le Rwanda, ça vous l'avez dit, mais il dit, enfin, quel est le rôle de la CPGL? Y a-t-il lieu, professeur, de remettre en cause l'existence même d'une telle institution au niveau régional?
La question elle est vraiment pertinente du fait que le Rwanda effectivement a signé avec le Congo toute une série de conventions et que ces conventions elles ne sont pas respectées. Donc lorsque le Rwanda ne respecte pas ces conventions, il est quand même du devoir, je crois, du gouvernement congolais de se poser la question par rapport à ces engagements qui sont pris par les pays et qui ne respectent pas leurs engagements. Ça c'est une chose. Mais je dois aussi vous dire que la CPG a prévu quand même des mécanismes aussi lorsqu'il y a des tensions entre les pays, des mécanismes politiques qui peuvent être activés, notamment les questions sécuritaires avec la tripartite, qui peut être activée entre les trois pays et tâcher de résoudre ainsi les problèmes. Parce que si le Congo ne saisit pas la tripartite dans ce sens-là, bon, ça c'est la responsabilité du gouvernement congolais. Par ailleurs, il y a un autre aspect de la question de l'auditeur qui parle effectivement de la politique sécuritaire locale, provinciale, régionale et internationale de la RDC. C'est là aussi où le bas continue à blesser dans le sens où jusque maintenant, donc depuis maintenant quand même plusieurs années, la RDC n'a toujours pas les moyens de sa politique internationale. Quand je dis qu'elle n'a pas les moyens de sa politique internationale, c'est-à-dire toute une série de questions qui concernent la RDC. Souvent, malheureusement, la RDC a été fort absente sur des questions, que ce soit l'environnement, la sécurité, etc., au niveau international, où on n'a pas vraiment senti que la RDC avait une véritable politique internationale. Or, la politique internationale va de pair aussi avec des politiques sécuritaires, que la RDC n'a toujours pas jusqu'à présent.
Merci,
et donc, la réaction prudente du gouvernement congolais vis-à-vis du Rwanda s'explique aussi par la position de faiblesse du Congo face au Rwanda.
Merci, professeur. Monsieur le conseiller Raphaël Loulou, il y a Chris Bardol Muteba qui nous écrit d'Afrique du Sud, qui dit « C'est le gouvernement congolais qui est passif. Comment a-t-il pu ignorer les rapports des organisations internationales sur la guerre à l'est de la RDC tout en allant signer d'autres accords secrets de paix avec le Rwanda? Non, il est grand temps de nous dire la vérité. » Vous avez également suivi le professeur Bob Kabamba qui revient sur le fait que le Rwanda a plusieurs fois violé les différentes conventions.
Oui, c'est la responsabilité du gouvernement congolais, certes, de pouvoir revoir ou analyser comment ces différentes conventions signées avec le Rwanda sont violées par celui-ci. Mais je pense que, en commençant par le dire, tel que le gouvernement l'a fait dans la déclaration à Goma le 9 juin, c'est déjà un élan, c'est déjà un signe encourageant. Je ne pense pas que le gouvernement Matata, en tant que gouvernement responsable de notre pays, puisse se limiter tout simplement à une simple déclaration. Non, je pense que le gouvernement, et ici il ne me revient pas, d'autant plus que je ne suis pas du gouvernement, il ne me revient pas de voiler ici, même quand bien même je le savais, et le gouvernement congolais doit absolument aller de l'avant, ou faire mieux, ou faire encore plus, c'est-à-dire passer d'une déclaration à un acte posé, tel que le prof vient de le dire et je viens de le répéter. Revoir ces accords, ces conventions signées avec le Rwanda, comment le Rwanda est en train de le violer, quelles sont les conséquences qu'il faut tirer. Tout ceci revient à notre gouvernement de pouvoir tirer au clair cette situation. Mais nous ne pouvons pas dire que c'est la passivité, c'est la nonchalance du gouvernement congolais et que le gouvernement congolais est faible. Le gouvernement n'est pas faible, le gouvernement congolais est responsable et nous devons, il appartient à chacun d'entre nous, face à la situation que nous connaissons à l'Est, de pouvoir encore booster le gouvernement à aller de l'avant pour faire plus. Je pense que c'est de cette manière qu'il faudra, et plutôt que de revenir à retrouver les origines de la crise, je suis d'avis avec l'auditeur qui est à Bounia, qui a posé la question à l'honorable Jérôme tout à l'heure. Ça ne sert à rien, certes l'origine nous la connaissons tous. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous devons continuer à pleurnicher sur les origines de la guerre, les origines de l'insécurité à l'Est? Aujourd'hui nous avons une situation en face de nous
mais aujourd'hui, nous devons dire que le gouvernement prenne ses responsabilités et toutes les responsabilités pour pouvoir sécuriser la population, sécuriser les frontières, sécuriser notre État. Voilà ce que nous attendons du gouvernement et nous disons, le gouvernement, devant ses responsabilités, pourra le faire.
Alors, monsieur le conseiller, avant que je ne redonne la parole à l'honorable Lusenge Bonane, le professeur Bob Kabamba a souligné le fait que la RDC n'a pas les moyens de faire pression sur le Rwanda, la RDC n'a pas non plus les moyens de sa politique internationale. Comment vous réagissez?
Moi, je pense que le gouvernement congolais a les moyens de le faire. Le faire, aujourd'hui, vous avez suivi d'ailleurs, il y a des gens qui ont félicité cette déclaration du gouvernement, chose qui ne se faisait pas avant, comme d'aucuns l'ont eu à le dire. Mais que le gouvernement est en train de pouvoir contacter, j'imagine, les instances internationales pour qu'on arrive à traiter de la question comme des États responsables, et non pas comme beaucoup de gens le souhaiteraient, c'est-à-dire prendre l'armée directement, on commence la guerre et quand bien même, nous ne négligeons pas, comme l'honorable Jérôme le soutient, le gouvernement ne néglige pas, parce qu'il a eu à le dire, l'entourage autour du chef de l'État prend à la légère la situation. Nous ne prenons pas à la légère cette situation, nous la prenons au sérieux et en toute responsabilité. Et la responsabilité ne nous demande pas d'avoir des réactions épidermiques. La responsabilité, c'est pouvoir agir en tant qu'État responsable, en contactant, bien sûr, ou en suivant la procédure internationale pour régler de telles situations. Merci. Nous ne pouvons pas agir comme les autres sans pouvoir nous référer aux instances internationales. Voilà pourquoi, quand la République démocratique du Congo le dénonce ouvertement devant la presse internationale, j'imagine que le ministre des Affaires étrangères est en train de jouer son rôle pour répondre à la préoccupation du professeur Bob Kabamba. Merci. Et j'imagine que le Premier ministre aussi ne croise pas les bras parce que la population congolaise, surtout nos populations de l'Est, vont juger notre gouvernement sur les résultats. Merci. Voilà, ça veut dire que le gouvernement congolais a du pain sur la planche pour agir. Nous avons besoin de résultats pour mettre fin à l'insécurité à l'Est.
Merci, monsieur le conseiller Raphaël Oulou. Honorable Bonane Jérôme Lusenge, maître Freddy de Kananga au Kasaï Occidental dit, c'est une avancée notable que vient de réaliser notre pays en dénonçant publiquement le mal qui le ronge tous ces jours et qui frise une complicité. Pour vous, honorable, quelles conséquences une pareille déclaration de la part du gouvernement congolais peut-elle avoir dans les relations avec le Rwanda?
Je pense que les relations avec le Rwanda doivent être plutôt des relations de franchise. Si le Rwanda a ses intérêts qu'il défend et sait les exprimer, le Congo doit aussi savoir exprimer ses propres intérêts. Et si c'est le Congo qui semble se cacher pour exprimer son propre problème, comment voulez-vous que le Rwanda le prenne au sérieux? Moi, je pense que effectivement, je suis d'avis que il y a une avancée, mais les efforts que nous avons fournis pour pousser le gouvernement à prendre cette attitude, c'est comme si nous étions ennemis à notre propre gouvernement pour traduire ce qui vient d'être fait finalement aujourd'hui. Je suis de ceux qui disent que c'est une bonne chose s'ils l'ont fait et ils doivent aller de l'avant. Je suis de ceux qui pensent que on ne peut pas prétendre que nous n'avons pas les moyens. Je voudrais dire par exemple, il y a des petites choses que nous devons faire en interne. L'armée, par exemple, dire que nous devons faire une restructuration de notre armée pour que l'armée c'est un domaine sensible. Si on voit que au sein de l'armée, il y a par exemple des personnes qui recevaient une information, peuvent la faire traverser de l'autre de la frontière à la même minute. Quand même, nous devons d'abord corriger en interne ceux qui ont été infiltrés. Et ça, c'est facile, on peut les dénoncer, même maintenant si on veut traiter de la question. Voilà des petites choses qui démontrent l'intérêt du Congo lui-même à résoudre ce problème. Nous avons été chez le ministre de l'Environnement. Nous lui disons, mais comment est-ce que la RTNC parlait de cette affaire? C'est comme si c'était tabou. Vous-même, donc, les responsables congolais, les institutions congolaises, parlaient de la situation de la sécurité à l'Est, ça reste tabou au niveau de la RTNC.
Donc vous pensez que cela doit être expliqué, au fait?
Oui, et évidemment, nous venons de faire un huis clos à l'Assemblée nationale pour tenter d'expliquer aux autres députés. Nous sommes 500. Déjà, les 500 députés, peut-être 400 ne savent pas exactement ce qui se passe. Nous ne parlons pas de la guerre de l'Est, à l'Est de la République, même pas au niveau de l'Assemblée. C'est la toute première fois qu'on a tenu un huis clos à ce sujet, et cela a fait des gouttes. On ne veut pas qu'on en parle. C'est ça, est-ce que si on ne veut pas que les Congolais eux-mêmes le sachent, comment voulez-vous qu'on résolve le problème? Donc le gouvernement, heureusement, on avance bien, mais doit cesser d'avoir un comportement plus ou moins complice, plus ou moins de trahison. C'est ça ce que nous disons. Heureusement, bon, si on avance, félicitations, je suis de l'opposition, mais une opposition constructive. Si le gouvernement avance vers de bonnes choses, eh bien, d'ailleurs, c'est à la suite des efforts fournis par nous. Moi, je félicite ce type d'efforts. Et avec cette allure, nous demandons, par exemple, le gouverneur de Julien, pas le gouverneur Kivu, de cesser de mentir à tout moment. C'est ça, c'est ce que nous disons pour l'intérêt de sa propre province, communiquant de ce qui se passe.
Voilà, je vous en prie, honorable. Le principe de l'émission indique qu'on ne cite pas les noms des personnes qui ne sont pas là.
Et qu'il disait, c'est le gouverneur.
Je vous en prie, merci beaucoup d'avoir rectifié. Alors, que devrait faire la RDC maintenant? On écoute cette réaction de Thomas Bakin-Mouiti, porte-parole de la Société du Nord Kivu, qui propose que le gouvernement congolais puisse suspendre toute forme de négociation.
Nous félicitons le gouvernement qui a compris que c'est une réalité. Nous félicitons la MONUSCO qui a contribué à donner des moyens de preuve. Donc, nous attendons les actions du gouvernement face à ça. Et nous continuons à dire que il faut que le gouvernement qui est en position de se rechercher. Et il y a un écrivain qui a dit, lorsqu'on est en position de faiblesse, l'État doit éviter toute négociation. Puisque négocier, quand c'est un État qui est en position de faiblesse, ça signifie que c'est s'affaiblir davantage. Qu'il faut que notre gouvernement qui est en train de se rechercher cesse toute négociation avec qui que ce soit. Et avec le Rwanda, éviter des négociations. Mais plutôt, entretenir de bonnes relations, entretenir la diplomatie agissante pour rester en bonne relation avec les voisins.
Voilà, honorable bonne année à Jérôme Lusenge. Je rappelle que vous êtes député national de l'opposition et cadre du parti politique Union des démocrates chrétiens fédéralistes UDCF. En interne, vous proposiez déjà, par exemple, de restructurer l'armée. Et là, il y a une autre proposition qui vient de la société civile du Nord Kivu, que le gouvernement suspende toute forme de négociation. Quelle est votre réaction?
Oui, nous savons que les négociations se sont toujours faites de telle sorte que les Rwandais semblent piéger à tout moment le Congo. Et tout homme qui a des yeux pour voir peut le percevoir. Nous voulons que... Depuis longtemps, nous demandons qu'on évite ce genre de négociations avec les Rwandais qui ne servent à rien pour notre pays. Nous ne voulons pas vraiment.
Il y a le chef des travaux Mibeko qui nous écrit de Mbandaka à l'Équateur. Il ne s'agit pas de la passivité du gouvernement rwandais, mais de sa complicité. Depuis 1994, le gouvernement rwandais est à la base et la base arrière de toutes les rébellions à l'est de la RDC. Le gouvernement congolais doit saisir la justice internationale pour exiger réparation des préjudices subis. Le professeur Bob Kabamba l'a dit, également le député Henri Thomas Lokondo. Quelle est votre réaction, honorable?
Je suis de même avis.
Donc il faut saisir les juridictions internationales.
C'est aussi un moyen, entre autres moyens. En même temps que saisir les juridictions internationales, en même temps, nous devons être fermes quant à la gestion de nos propres affaires internes. J'ai dit, nous devons par exemple observer ce qui se passe au Nord Kivu. Voyez par exemple, pourquoi posez-vous la question, même si le conseiller du chef de l'État n'a pas voulu que je le dise, posez-vous la question, pourquoi Mutebusi, le CNDP lui-même, Laurent Kunda, Taganda, Makenga, sont d'une même zone ethnique? Posez-vous une question et regardons qu'est-ce qui se passe dans cet espace ethnique. Il faut qu'on corrige, qu'on voie qui dans cette zone-là est disposé à servir les pays voisins. Comme ça, l'ANR, son rôle, c'est quoi? C'est ça le rôle des services de sécurité, savoir qui peut être nuisible.
Professeur Bob Kabamba, il y a cette réaction qui vient d'un Mbujima et Kassai Oriental pour vous.
Congo Kababa, Pierre de Kumbushemaï. Les déclarations, nous les avons déjà entendues de tout genre. La population de l'Est n'a pas besoin de slogans, mais plutôt du pragmatisme. Pour moi, il faut donc démanteler certaines autorités de Kinshasa qui soutiennent les rebelles à l'Est. Et deux, il faut adapter les mandats de la MONUSCO à la situation actuelle de l'Est. Et trois, il faut permettre l'installation des grandes entreprises d'exploitation minière pour réduire les carrières artisanales qui hébergent les milices.
Voilà, je rappelle juste qu'il nous reste moins de 6 minutes pour terminer l'émission. Professeur Bob Kabamba, vous avez suivi les pistes de solutions proposées par cet auditeur. Quelle est votre réaction?
Il y a la question de déplacer, effectivement, et la question quand même des torts qui sont, que les populations civiles sont victimes de toutes ces actions et de toutes ces violations. Il faut arriver, de mon point de vue aussi, à quantifier un petit peu ça. Vous avez plus de 3000 personnes qui ont quitté donc leur domicile et qui sont déplacées, et d'autres qui sont des réfugiés à Ouganda. Et ça pose véritablement beaucoup de ça interpelle énormément. L'autre question qui est liée au mandat de la MONUSCO, on peut aussi se réjouir pour une fois la MONUSCO qui s'est déployée pour essayer de protéger les populations civiles à Bunagana. Mais cette attitude-là doit être de manière permanente, puisque c'est dans le mandat au fait de Nations Unies sur base du chapitre 4, et la question aussi des termes d'engagement qui peuvent être aussi modifiés pour permettre justement à la MONUSCO de pouvoir intervenir de manière beaucoup plus proactive et pas simplement d'attendre qu'ils aient obtenu les feux verts de New York. Alors la question liée aux ressources minières ne va pas, à mon avis, de mon point de vue, se résoudre uniquement parce que il y a des groupes ou des industries qui vont venir exploiter les mines et qui vont résoudre les problèmes, je ne pense pas. Je crois plutôt que c'est la question de la traçabilité au fait des mines. C'est-à-dire que les mines qui doivent être exploitées dans cette partie du Congo doivent respecter un cahier des charges, et ce cahier des charges doit être très clair pour dire que ce sont des mines qui ne participent pas au pillage de ressources, ce sont des mines qui ne créent pas la sécurité, etc., etc. Ce sont des cahiers des charges comme ça, et une traçabilité qui peut permettre de pouvoir réduire le fait, l'appât du gain de groupes et miliciens sur les minerais. On a eu la même chose avec le processus de Kimberley pour le diamant, et de manière très claire, l'évaluation que l'on a faite, c'est qu'on a pu analyser, par exemple, le trafic de diamants de sang, et pour essayer que ce diamant ne puisse plus intervenir dans tous les processus, dans toutes les violences que l'on constate dans certains pays. Et donc, de mon point de vue, voilà quelques pistes sur lesquelles que l'on peut compléter sur base de l'intervention de l'auditeur.
Monsieur le conseiller Raphaël Ouloulou, je rappelle que vous êtes conseiller principal du chef de l'État chargé des questions parlementaires et des institutions d'appui à la démocratie. Il nous reste moins de 3 minutes pour terminer l'émission, donc il faut déjà attaquer les conclusions. Mais il y a Chibanda Santish, jeune d'Oregon aux États-Unis, qui dit « Ce n'est pas acceptable à ce jour pour un pays comme la RDC de continuer à se plaindre d'une attaque de l'extérieur. Nous connaissons ces attaques depuis plus de 10 ans. Ce qu'il doit faire, c'est d'équiper l'armée nationale pour repousser ces attaques au lieu de se plaindre comme si on n'était pas un pays. Nous aussi, nous devons nous préparer, former notre armée au lieu de se plaindre. » Mwango Augustin de Kalima au Maniema, je prends la dernière partie de sa réaction. Le retour de la sécurité dans cette partie du pays dépend plus de la volonté politique du gouvernement de Kinshasa qui semble vouloir la chose et son contraire. Monsieur le conseiller Raphaël Ouloulou, en guise de conclusion, quelle réponse vous donnez à ces deux auditeurs?
Ben, je dirais que le gouvernement congolais a une armée et l'armée de la République démocratique du Congo doit faire ses preuves sur le terrain. D'ailleurs, vous l'avez suivi. Lorsque notre armée est arrivée à récupérer les 38 tonnes d'armement entre les mains de mutins, c'est déjà quelque chose, jusqu'à les repousser à la limite de frontière. Et aussi, le gouvernement congolais doit faire ceci au sein de l'armée. S'il y a des éléments reconnus, le ministre Mende a dit parler de 200-300 hommes, s'il y a des éléments rwandais au sein de l'armée, c'est question de les faire partir de l'armée.
Merci.
De telle sorte qu'il n'y ait pas de gens capables à pouvoir nous créer ce genre de désagrément.
Merci.
Aussi, je terminerai en disant ceci. On ne peut pas dire que le gouvernement congolais ne peut pas faire de conventions avec l'État rwandais ou tout autre État. Ce n'est pas parce que on fait de conventions ou on se retrouve avec le gouvernement rwandais ou un responsable du Rwanda pour parler de la question.
Merci.
Que le gouvernement congolais est faible. Non.
Merci. Honorable Bonané Jérôme Lusenge, en guise de conclusion, qu'est-ce que vous avez à dire?
J'ai dit le problème de l'armée congolaise est associé et le gouvernement doit avoir la volonté d'exterminer son propre récasseur qui est en lui-même. Et si nous aurons la paix, et l'Est soutiendra le régime s'il y a la paix, nous voulons cette paix. Ces petites choses, ces attaques de Timbo Timbo, de Matembe, finissons-en. Nous avons besoin de circuler librement pour qu'on parle aussi de développement au Kivu. Parce que jusqu'aujourd'hui, nous, on n'est pas les passants chantiers. Nous ne vivons que la guerre, la mort, enterrés et tous les jours.
C'est merci. Ça notre c'est par vous que nous terminons cette émission. Merci au professeur Bob Kabamba. Au revoir à tous.